La bonne nouvelle de Jésus, qui pour moi se résume beaucoup, même si je peux choquer certains théologiens par cet appel « Lève-toi et marche », tu n'es pas tout seul, la vie n'est pas facile, mais je suis avec toi sur les chemins de la vie, c'est ce que j'entends de Jésus ressuscité, eh bien je pense que c'est ça le souffle. Alors ce souffle me dit « tu es capable, si possible, pas tout seul ». Et tu es capable de faire quelque chose. Et je crois que ce souffle de la bonne nouvelle, c'est-à-dire « je te prends au sérieux ». Vous savez, pour moi, un des souffles, c'est le « donne-moi à boire » que Jésus lance à la Samaritaine, alors que c'est une femme, c'est pas très bien vu, que c'est une hérétique, c'est encore moins bien vu, que c'est une personne qui, sur le plan conjugal, n'est pas tout à fait en règle, semble-t-il. Eh bien, il va commencer par lui dire « tu es importante pour moi, donne-moi à boire ». Non seulement j'en ai un besoin immédiat, mais nous allons, à partir de ce service que tu vas me rendre, créer une relation. Et moi, ce « donne-moi à boire » ou le « et toi même tu » que Jésus lance à Pierre, voilà un souffle qui m'anime beaucoup.
Alors, vous vous revendiquez clairement catholique, appartenant à l'Église catholique, fier d'appartenir à cette Église. Alors, est-ce que là, dans l'Église aussi, vous avez puisé une certaine force pour mener votre combat ?
Je suis plus que fier, je suis heureux d'être dans cette Église catholique. Pourquoi heureux ? Parce que ce sont depuis 2000 ans des hommes, des femmes qui ont résisté, qui ont lutté, qui ont témoigné, qui ont cru et qui m'ont transmis cette bonne nouvelle dont je parlais à l'instant. Donc je suis heureux de cela. Ce qui ne m'empêche nullement d'y être tout à fait libre, de pouvoir dire ce que j'ai à dire. Donc ça, je voulais insister là-dessus. Alors, à l'évidence, des hommes qui m'ont beaucoup influencé, c'est quelqu'un comme l'abbé Pierre. Vous savez, on raconte cette histoire. L'abbé Pierre, avant même qu'il ne devienne très connu, il connaissait déjà quelques personnes en difficulté. Et un de ces messieurs en difficulté, ce qu'on appelle, nous, un sans domicile fixe, un clochard, un homme de la rue, il vient lui dire un jour, « Tu sais, l'abbé, je vais me suicider. Moi, la vie est impossible, j'en peux plus. » Et l'abbé va lui répondre, « Tu fais ce que tu veux, tu es libre. Mais c'est pas de chance parce que j'avais besoin de toi demain. » Eh bien, cet appel, « J'ai besoin de toi. Tu es important. On va faire quelque chose ensemble. » Voilà ce que je retiendrai. J'ai mis le nom de l'abbé Pierre, mais on pourrait mettre le nom de beaucoup d'anonymes derrière ces hommes et ces femmes qui, au cours de ma vie, m'ont dit, non pas « tu es un sauveur, tu es magnifique », mais « tiens, on va faire quelque chose, j'ai besoin de toi ».
Sans la foi chrétienne, auriez-vous pris conscience, justement, de ce qu'il y avait à faire aujourd'hui dans le monde ?
Cette foi chrétienne, au sens de cette présence de celui qui m'appelle et surtout qui m'accompagne, qui me prend par la main, qui a inscrit mon nom sur la paume de ses mains, je n'ai jamais vécu sans cette présence, donc j'ai du mal à répondre à ça. Mais je peux très bien intellectuellement imaginer que ma réponse, c'est oui, sans la foi chrétienne, j'aurais sûrement pu me révolter face aux injustices, et j'ai constaté dans le domaine des droits humains des hommes et des femmes sans référence à Jésus-Christ qui font cette révolte. Mais ce qu'il y a de spécifique, je crois, dans tous ces combats, c'est ce que j'appelle la transcendance de la personne. Vous savez, le psaume qui dit à Dieu, « Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes souci ?» C'est poser le mystère de l'homme. Et j'ai toujours travaillé avec des hommes et des femmes, y compris parfois, qui ne croyaient pas en Jésus et en la révélation de Jésus-Christ, mais qui tous croyaient au mystère de l'homme, à la dignité indéfinissable que l'on ne pouvait pas limiter à la dignité de la personne. Alors, vous voyez, ma réponse est moi, oui, bien sûr, l'Évangile a toujours été essentiel et je n'en fais pas un plus, j'en fais la source. Mais j'ai heureusement rencontré dans ma vie des hommes et des femmes qui ne croyaient pas au Dieu de Jésus-Christ et qui m'ont dit « la dignité humaine, ça vaut le coup, entre guillemets, c'est sacré, je vais y donner du temps, de l'intelligence, de l'argent et parfois y donner ma vie ».
Vous avez évoqué tout à l'heure la manière dont la parole de Dieu vous inspirait. Y a-t-il des concordances dans la parole de Dieu avec la lutte que vous menez au quotidien ?
Il y a des concordances, et je dirais ces concordances, elles s'aboutissent, elles se déploient totalement dans l'Évangile, c'est-à-dire dans la révélation de ce que Dieu s'est fait homme. Et voilà, dans ce passage en particulier de Matthieu 25, « J'étais affamé, tu m'as nourri, j'étais en prison, tu m'as visité. Comment est-ce possible, Seigneur, mais je ne t'ai jamais rencontré ?» Quand tu as visité l'un des miens, l'un des plus petits, lorsque tu as nourri l'un des plus petits, c'est moi que tu nourris. C'est plus que de la concordance, c'est ce lieu de cette rencontre avec ce Dieu tout aimant, il est le même lieu que celui de mes actions pour la dignité de la personne, pour partager un peu de mon argent, pour créer des projets politiques et économiques qui font du développement au sens humain du terme. C'est le même lieu. Donc vous voyez, c'est plus qu'une nourriture cette parole. C'est le lieu de l'incarnation qui me dit, il n'y a pas 36 niveaux pour vivre ma vie. Ce niveau de la fraternité, du partage, de l'action, pour que la terre soit plus juste, soit plus vivable, c'est le même niveau que celui de la rencontre avec Dieu. Je crois que c'est la grande richesse de la révélation chrétienne, qui en cela est totalement originale par rapport à d'autres courants religieux, que de dire « ne cherchez pas Dieu dans les nuages, il est dans vos frères, et voyez dans vos frères le reflet de cette présence de Dieu. »
Guy Orange, vous êtes avocat, là encore, s'il y a un cas que vous avez défendu, que l'on pourrait retenir, peut-être le cas qui vous a le plus marqué, lequel serait-il ?
Ce n'est pas une affaire, c'est des affaires familiales. Des affaires familiales où un homme, une femme se déchire, etc. Eh bien, j'ai rencontré dans certaines de ces affaires, au cœur de la lutte, de la séparation, des hommes et des femmes, en particulier une femme capable de dire à son mari, qui pourtant lui avait vraiment gâché sa vie, il avait été très responsable de choses extrêmement négatives, lui dire « Attends, nous avons nos comptes à régler, c'est sûr, mais si tu restes le père de nos enfants, et nous avons ensemble à construire un avenir pour nos enfants. » Vous voyez, au cœur des difficultés familiales, pouvoir ne pas enfermer l'autre dans sa faute, dans la blessure qu'il m'a causée, non pas l'oublier, surtout pas d'oubli, parfois demander à la justice de régler les choses, mais d'être capable de lui dire humainement, je ne t'enferme pas là-dedans, tu es le père de nos enfants, nous allons redonner ou donner ou dispenser un peu d'amour. Voilà des procès dans le droit familial qui m'ont beaucoup marqué, à la fois dans ce déchirement et dans la capacité, oui, de dépassement dont les hommes et les femmes sont capables. Vous savez, ce que j'ai appris dans cette courte vie, c'est notre capacité à relever l'autre. Nous sommes des petits sauveteurs en puissance à travers le geste qui sauve, à travers la solidarité organisée, à travers l'engagement politique. Nous sommes des sauveteurs. Pourquoi ? Nous pouvons briser la solitude. Et le message de l'évangile, c'est que tu n'es plus seul. Et voilà que j'ai appris qu'effectivement, j'étais un peu dépositaire de ce travail, et nous le sommes tous, de dire à l'autre, tu n'es plus seul.